Une jeune mère de famille volage et libertine ne donne plus signe de vie.
Tous les gens que j'entends disent la même chose. Il est impossible qu'elle puisse partir.
Si je meurs, je meurs. Vas-y.
Tu couches ?
Vas-y, cadeau.
Je suis au moment où je gagne.
Le père de son enfant de 4 ans ne s'inquiète pas de sa disparition.
À un moment donné, c'est la mère de votre fille, vous faites un avis de recherche. Or, tout ça, toute cette démarche ne se fait pas.
Il ne supporte pas qu'elle refasse sa vie avec d'autres hommes.
Elle est en construction et Pacquenet ne supporte pas cela.
Cet homme s'avère être un personnage hors du commun.
C'est Rambo, Pacchioni. C'est un homme, un personnage de roman, un aventurier, c'est sûr.
C'est un homme qui n'a pas froid aux yeux, c'est un baroudeur, c'est un homme solide.
La tienne, c'est bien.
La tienne, Enrique.
Cet aventurier est prêt à tout pour le bonheur de sa fille autiste.
Quand elle regarde son père, on sent tout l'attachement du monde. Et quand il regarde sa fille, il va jusqu'à nier la maladie de sa fille. C'est assez extraordinaire de voir ça.
Il est capable de tout par amour pour cet enfant. Et je dis par amour pour cet enfant. Hein.
Il kidnappe son propre enfant au nez et à la barbe des policiers.
Mais c'est un véritable rapt, quoi.
Juin 1989. Nous sommes à Marignane, près de Marseille. Michel Moriamé, une secrétaire âgée de 32 ans, a disparu depuis 2 mois. Sa mère, inquiète de ne plus avoir de ses nouvelles, appelle le commissariat.
J'ai Madame Moriamé au bout du fil, laquelle me dit, voilà, depuis 2 mois, je n'ai plus de nouvelles de ma fille. Or, elle me téléphonait 2 fois par semaine. Elle habite le Carassier. J'appelle, elle ne répond pas. J'appelle plusieurs fois, elle ne répond pas. J'ai appelé le matin, le soir, elle ne répond toujours pas.
Convaincus du caractère mystérieux de cette disparition, les policiers se rendent au domicile de Michel Moriamé. C'est là qu'ils rencontrent un homme, l'ex-compagnon de la locataire, un certain Henri Pacchioni.
Il y a un homme qui se présente, qui rentre à la clé de la serrure. Donc je dis, monsieur, vous habitez ici ? Il dit, oui, j'habite là. Je dis, mais vous êtes qui ? Il dit, Henri Pacchioni. Je vis avec Michel Moriamé.
Henri Pacchioni, dont voici le vrai visage à l'époque, n'a pas encore 50 ans. L'homme invite les policiers à l'intérieur du domicile de Michel Moriamé. Les enquêteurs le pressent de questions sur l'emploi du temps de sa compagne. Mais avant toute chose, le baroudeur tient à mettre les choses au clair. Michel Moriamé n'est plus sa compagne, et encore moins son épouse. Près de 20 ans se sont écoulés. Mais aujourd'hui encore, Henri Pacchioni se souvient très bien de ce qu'il a dit lorsqu'il a vu arriver les policiers.
C'était pas ma femme. C'était pas ma femme. C'est la mère d'Émilie, c'est pas pareil. Ça, j'y tiens à ça. C'est pas ma femme.
Face aux policiers, Henri Pacchioni explique qu'il n'est pas étonné de l'absence de Michel Moriamé.
Il me dit, de toute façon, elle est habituée à partir par 7 jours, 2 jours, 3 jours. Là, elle a dû rencontrer quelqu'un, elle est partie, ça dure 2 mois, ça va durer 3 mois, c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Quand il en aura marre, il la virera.
Et c'est pas la première fois qu'elle partait. Combien de fois elle a foutu le camp ? Une semaine, 10 jours, 15 jours, 1 mois. Combien de fois elle l'a fait ?
Très vite, les policiers l'interrogent sur son histoire avec la disparue, Michel Moriamé. Henri Pacchioni leur fait le récit de leur vie commune. Il leur montre un album photo qu'il détruira par la suite.
Ils se sont rencontrés, elle était beaucoup plus jeune que lui. Je crois qu'ils avaient 15 ou 16 ans d'écart. Et ça a accroché de suite. De suite, elle était charmante, il était beau garçon, il était baroudeur, il avait tous les ingrédients pour que ce soit une merveilleuse histoire d'amour.
La jeune secrétaire est flattée que cet homme, qui fait figure de séducteur, s'intéresse à elle. Henri Pacchioni incarne alors tout ce qu'elle cherche chez un homme. Pendant quelques années, la relation est intense et passionnelle.
Je crois qu'il était d'abord physiquement attaché à elle. Quand il parle de Michel Moriamé, il a un sourire, un regard. Et physiquement, ils étaient très liés. Il disait que c'était une princesse au lit. Il faut le dire.
Bon, elle avait une qualité, il ne faut pas y enlever. C'était au lit. Hein. Au lit, c'était une artiste.
De cette relation passionnelle, naît en 1984 une petite fille qu'ils appelleront Émilie. Henri découvre à ce moment-là les joies de la paternité.
de ce petit bébé qui s'agrippait à moi là, comme une petite folle là, hein, qui me faisait des gros bisous baveux là, sur la joue là, ben voilà, ben moi j'ai découvert ça moi.
Henri et Michel vivent ensemble des moments heureux avec leur petite Émilie. Pour Michel, il s'agit de son premier enfant. Quant à Henri, il lève le pied professionnellement pour se consacrer davantage à sa vie de famille. Alors que jusqu'ici tout paraissait normal, les parents vont devoir faire face à un terrible malheur. Émilie, âgée de 3 ans, décroche et se révèle handicapée mentale. Le couple est mis à l'épreuve.
Il faut dire, elle est autiste. Elle est autiste, psychotique, tout ce que l'on veut. Elle a un retard. Elle a, à 80 ans, elle aura la pensée d'un enfant de 2-3 ans. Elle est retardée. Quand elle regarde son père, on sent tout l'attachement du monde. Et quand il regarde sa fille, il va jusqu'à nier la maladie de sa fille. C'est assez extraordinaire de voir ça. Ils font vraiment un couple, une symbiose.
Aux enquêteurs qui s'interrogent sur la disparition de Michel Moriamé, Henri Pacchioni explique qu'ils se sont séparés il y a quelques mois. S'il a les clés de l'appartement de son ex-compagne, c'est uniquement pour s'occuper de leur enfant, Émilie. Mais les policiers ne sont pas convaincus.
À un moment donné, c'est la mère de votre fille, vous faites un avis de recherche. Or tout ça, toute cette démarche ne se fait pas.
Les enquêteurs demandent à voir la chambre de Michel Moriamé. Et là, surprise, son lit a disparu.
Il n'y a plus de montant du lit, il n'y a plus de lit du tout, il y a juste 2-3 barres qui sont là, qui traînent. Le lit n'y est plus.
Les policiers sont particulièrement intrigués. Que s'est-il passé dans cette chambre ? Henri Pacchioni affirme qu'il s'est débarrassé des meubles. Mais pourquoi un tel déménagement ? N'y avait-il pas sur ce lit des preuves compromettantes ?
Est-ce qu'il a voulu faire croire à une tentative de déménagement de cette femme? Je ne sais pas. C'était une énigme. Personne n'a donné d'explication plausible sur cette histoire de lit, sur la raison pour laquelle il l'aurait démonté.
Le lit de Michel Moriamé ne sera jamais retrouvé. Mais l'interrogatoire n'ira pas plus loin. Un cri sort de nulle part. C'est Émilie qui fait une nouvelle crise, chose récurrente pour cette petite fille handicapée mentale. Cette crise est le fruit d'un stress causé par l'arrivée des policiers, élément perturbateur dans son petit monde. Le seul à pouvoir la calmer, c'est son père. Il est le seul à avoir les mots et les gestes qui la réconfortent. Tendrement, calmement, il la rassure, la prend dans ses bras et lui confectionne un petit nid douillet devant son film préféré. Un regard, une caresse, un sourire, des mots tendres. Il n'en faut pas plus à la petite Émilie pour se calmer. Son père est tout simplement son port d'attache, son remède, son héros. Les policiers laissent Henri Pacchioni s'occuper de sa fille. Pour le moment. Une mère de famille qui disparaît 2 mois sans donner de nouvelles. Un ex-compagnon dont elle est séparée qui vit chez elle. Une chambre sans lit. Pour les enquêteurs, tout ceci est très étrange. Les policiers ont la conviction qu'ils sont loin d'en avoir fini avec Henri Pacchioni. D'autant plus que l'ex-compagnon a un profil très particulier. Depuis des années, Henri Pacchioni frôle la mort et n'a peur de rien. Dans l'esprit des enquêteurs, un scénario se dessine. Celui d'un compagnon jaloux qui n'aurait pas supporté que Michel Moriamé refasse sa vie et qui aurait choisi de l'assassiner. Père aimant, homme violent, meurtrier sans scrupules, coupable ou innocent? Quel est le vrai visage d'Henri Pacchioni? Henri Pacchioni se retrouve au commissariat de Marignane à propos de la disparition de son ex-compagne, Michel Moriamé. Les policiers ont face à eux un homme hors du commun, digne des plus grands personnages de romans. Henri Pacchioni est un aventurier des temps modernes qui a plongé dans tous les océans de la planète.
C'est un homme qui n'a pas froid aux yeux, c'est un baroudeur, c'est un homme solide.
Je dirais que c'est un homme robuste, costaud. Mentalement bien équilibré.
Alors, lui, c'est Rambo, Pacchioni. Et quand on a cette affaire, on a l'impression que si c'était un film, ce serait à la fois Indiana Jones et Le Grand Bleu. Et c'est un homme, un personnage de roman, un aventurier, c'est sûr.
C'est un homme qui a une vie dont on rêverait. Beau garçon, bel homme. Le personnage était très, très intéressant et en plus très attachant.
Aujourd'hui, âgé de 70 ans, Henri Pacchioni accepte pour la première fois de raconter sa vie à une seule condition. Que sa fille handicapée mentale soit présente pendant l'entretien.
70 balais, j'ai bien vécu, j'ai fait autour de moi. J'ai eu des amoureuses à... J'en ai eu quelques-unes dans ma vie.
Les policiers le découvrent. Cet ancien de la guerre d'Algérie n'a pas froid aux yeux. Il connaît le maniement des armes. Revenu dans le civil, Henri Pacchioni trouve une nouvelle opportunité d'affronter le danger. Aventurier à toute épreuve, il intègre la plus grande société internationale de travaux sous-marins en tant que plongeur et foreur. Ainsi, il va connaître toutes les mers du globe au péril de sa vie.
C'est une vie à part. Voilà, c'est une vie à part. Ça, on mène une belle vie. Les hôtels, les restaurants, les plateformes, les hélicos, les avions, les plongées aussi. C'est une vie d'aventure, pas une vie familiale.
En effet, à l'époque, Henri Pacchioni est marié et a 3 enfants. Une vie conjugale difficile. Sa première femme, Marité, supporte de moins en moins son absence.
Moi, ça m'est arrivé d'arriver le vendredi de Mer du Nord. J'étais marié là. Et le samedi matin, je repartais dans le golfe Persique. Je suis revenu 6 mois après. Là, la Marité, elle a piqué une crise de folie. Là.
Aussi, après 20 ans de mariage, il se sépare de la mère de ses 3 enfants. Henri, en homme au grand cœur et généreux, lui laisse la maison, de l'argent et la garde des enfants. Henri a fait le choix de vivre comme un nomade. Cette vie d'aventure lui convient parfaitement. Maintenant qu'il est divorcé, il peut donner libre cours à sa vie de célibataire.
Je m'étais juré de plus jamais me mettre en ménage. C'est moi, avec la vie que je menais, elle me plaisait très bien. On était tous mariés ou cavalés derrière les femmes. Dès qu'on débarquait, on aurait dit des chiens de chasse qui partaient.
Début 1982, Henri Pacchioni a 40 ans. Il est au sommet de sa renommée et de sa séduction. C'est de retour de mission qu'il fait la connaissance d'une jeune secrétaire de 15 ans, sa cadette, Michèle Moriamé. Ils resteront ensemble 7 ans, sans jamais se marier, et auront une fille, Émilie. Tout semble bien se passer jusqu'au moment où Michèle Moriamé disparaît. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs cherchent à en savoir plus sur la nature de la relation entre Michèle Moriamé et Henri Pacchioni, afin d'étayer leurs soupçons.
Tous les gens que j'entends autour disent la même chose. Il est impossible qu'elle puisse partir. Il lui est arrivé quelque chose. Elle n'est pas partie.
Lors de l'enquête de voisinage, ils cherchent quelqu'un qui puisse les conforter dans cette thèse.
Personnellement, non, mais c'est ma voisine de palier, quoi.
Bah, vous savez que ça fait de moi...
Dans l'immeuble de Michèle Moriamé, ils croisent par hasard une voisine de palier. Interrogée, la femme révèle aux enquêteurs un point qui va bouleverser leurs convictions. Elle se souvient très bien d'une soirée bruyante, il y a à peu près 2 mois, dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Elle a entendu des cris provenant de l'appartement de Michèle Moriamé.
La voisine a dit qu'elle a entendu 4 appels de secours. Elle les a comptés, 4 appels au secours. Puis plus rien, le silence complet.
La voisine en est sûre. Cette voix qui criait à l'aide dans la nuit était celle de Michèle Moriamé. Elle explique qu'intriguée, elle est allée frapper à la porte de sa voisine de palier pour s'assurer que tout allait bien. Mais personne n'a répondu. La voisine fait entrer les policiers chez elle et leur explique ce qu'elle a vu à travers le Judas un peu plus tard ce soir-là. Silencieusement, un homme vêtu de noir avec un chapeau, faisant tout pour ne pas être remarqué, a quitté l'appartement de Michèle Moriamé. Elle l'a vu de ses propres yeux.
Une dame dit, je regardais par le Judas de ma porte, j'ai vu disparaître une souhaite d'un monsieur, mais ce n'est pas Pacchioni, parce que je reconnais sa démarche.
En effet, comme le prouve cette photo, depuis un accident sur une plateforme pétrolière, Henri Pacchioni boite sévèrement. Sa voisine le sait et reconnaîtrait son pas entre 1000. Or, l'inconnu ne boitait pas. La voisine en est certaine, il ne peut en aucun cas s'agir d'Henri Pacchioni.
Oh non, Henri Pacchioni, il boite. Et en plus, il porte des Santiago, donc alors, on l'entend.
Mais alors, si ce n'est pas Henri Pacchioni, qui cela peut-il bien être? Avec le témoignage de la voisine, les policiers sont persuadés qu'il est arrivé quelque chose à Michèle Moriamé cette fameuse nuit du 31 mars au 1er avril 1989. Reste alors à comprendre ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Qui était cet homme mystérieux si ce n'était pas Henri Pacchioni ? Michel est-elle encore en vie? Si oui, où est-elle? Sinon, où se trouve sa dépouille?
Monsieur, asseyez-vous, bonjour.
Afin de comprendre le profil de la disparue, les enquêteurs interrogent maintenant des proches de Michel Moriamé. Qui est-elle? Avait-elle des ennemis? Ou encore, des raisons de disparaître? Au commissariat de Marignane, les auditions défilent. Les policiers comprennent que les relations entre Henri Pacchioni et Michel Moriamé ont toujours été très tendues, notamment à cause du handicap de leur petite Émilie. Henri et Michel ne se sont jamais accordés sur la manière de s'en occuper et de l'éduquer.
Tu peux pas comprendre qu'elle est beaucoup mieux en institut.
Non, elle
veut rien, ta fille.
Comment elle voit rien, ma fille?
Le couple se déchire. Le père d'Émilie accusant la mère d'être à l'origine du handicap de l'enfant.
Elle ne supportait pas. Elle ne supportait pas la petite. Émilie s'approchait de sa mère parce que tous les bébés le font et elle commençait à marcher. Et là, t'es fini, ton gueule, casse-toi de là, tu pues. C'était ça en permanence, ça en permanence.
Michel Moriamé, mère de famille de 32 ans, a disparu depuis 2 mois. Son ex-compagnon et père de sa fille, Henri Pacchioni, est la seule personne à ne pas s'inquiéter. La police découvre que les parents se déchiraient à propos du handicap de leur fille. Henri Pacchioni accuse Michel Moriamé d'être responsable de la maladie mentale d'Émilie. Michel Moriamé était-elle une mauvaise mère qui brutalisait son enfant? Certains témoignages le confirment, comme celui de la babysitter.
La petite Émilie se couchait par terre. La nounou lui parle et lui fait comprendre qu'il ne faut pas qu'elle dorme ou qu'elle se couche par terre. Et la mère lui dit ce mot terrible, en lui disant « mais c'est pas un mode de communication qu'elle peut comprendre. Il faut lui tirer les cheveux et là, elle va comprendre. » Et elle lui montre. Et la nounou est choquée.
Pour l'avocat de la famille Moriamé, Alain Mola, Michel était une mère dépassée par l'éducation d'une enfant autiste.
Et une parfaite mère peut être aussi de temps en temps irritée et pas à la hauteur. Vous savez, élever un enfant handicapé, c'est pas toujours facile. On peut les adorer, on peut les aider, on peut aussi parfois être dépassé.
Rien ne va plus au sein du couple. Henri Pacchioni et Michel Moriamé s'accusent l'un et l'autre d'être responsables de la maladie mentale de leur fille.
Et chacun se renvoie la balle sur le retard réel et physique de cet enfant. On va la mettre dans des centres spécialisés. Henri Pacchioni ne supporte pas les centres spécialisés en disant « ce sont des fadas, ce sont des fous, ma fille est normale et je me demande pourquoi on la place ».
Pour Henri Pacchioni, ce serait Michel Moriamé qui serait responsable du retard intellectuel de sa fille Émilie qu'elle droguait, selon lui, au somnifère pour la faire taire.
C'est dû au somnifère, au coup qu'elle a pris de sa mère. Un bocage, il est simple, quand un bébé bourré de somnifère, on l'empêchait de s'éveiller.
Michel Moriamé, de son côté, donnait une toute autre explication au handicap d'Émilie. D'après elle, c'est Henri Pacchioni qui serait la cause du traumatisme initial.
Ce handicap serait dû au fait qu'au cours d'une dispute, il y en a eu de nombreuses entre eux, elle aurait été précipitée par Pacchioni dans une baignoire d'eau bouillante.
Cette violence du père envers sa mère aurait traumatisé à vie la petite Émilie, témoin de cette scène abominable. C'est du moins la version de sa mère, Michel Moriamé.
Elle reprochait à Henri Pacchioni d'avoir tenté un jour de l'ébouillanter alors que la gamine avait 1 an et demi et que c'est ce qui a entraîné le retard. Elle s'est terrée dans ce monde de 1 an et demi pour ne plus voir la réalité des adultes. Voilà l'explication de la maman.
Pour Henri, ce n'est pas lui directement qui a précipité Michel Moriamé dans la baignoire d'eau bouillante, mais sa mère. Pia Pacchioni.
Elle a essayé de frapper ma mère, et ma mère qui l'a bastonnée, qui l'a foutue dans la baignoire, qui l'a ébouillantée, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est retrouvée à l'hôpital Nord. Et là, on a dit que c'était moi qui l'avais fait, c'est pas moi qui l'ai fait, pas du tout. Et Émilie n'a pas été bloquée, elle n'a même pas vu. Alors, Émilie, quand elle a envoyé sa mère, elle partait en courant, elle partait à l'inverse.
Vrai ou faux? Les crises au sein du couple deviennent de plus en plus violentes.
Disons qu'ils se disputaient souvent. Ça s'est terminé souvent en bagarre. D'ailleurs, un de mes collègues avait pris une mention de main courante ou une plainte. Une mention de main courante, parce qu'elle n'avait pas voulu déposer plainte, il lui avait cassé le nez.
C'est un homme violent, c'est un homme qui reconnaît d'ailleurs lui avoir cassé le nez un jour. Bon, c'est original, hein, comme réaction à un petit différent.
Une agression qu'Henri Pacchioni confirme, mais minimise.
On était avec des amis, on soupait, hein, et est arrivé comme un cheveu sur la soupe. hein, alors qu'elle ne devait pas être là. Et puis il a commencé, cette petite pouchasse, en parlant d'Émilie, et cet enculé, et c'est si, mais alors Michel, tout le monde, Michel, mais arrête quand même. Puis il a tenté de me frapper, je me suis retourné, pouf, il s'est collé sur la figure. Et c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital avec mon ami Daniel. Je ne suis pas caché, je n'ai pas dit que ce n'était pas moi, c'est moi qui l'ai fait.
Comment et pourquoi Michel Moriamé, une jeune secrétaire de 32 ans, a-t-elle disparu?
C'était quand même une fille assez volage et assez libertine.
Pacchioni est devenue fou. Elle a peur de lui, elle le signale, elle fait un testament.
Que s'est-il passé lors de cette fameuse nuit du 31 mars au 1er avril 1989?
S'il ne l'a pas jeté là, c'est qu'il ne sait pas où il a jeté le corps et que ce n'est pas lui qui a jeté le corps.
Incarcéré et accusé du meurtre de son ex-compagne, Henri Pacchioni va réussir l'exploit de s'évader et de partir en cavale à l'autre bout du monde avec sa fille handicapée.
La chose qu'il fait en s'étant évadé, c'est pas de prendre le large, c'est d'aller chercher sa fille. Voilà.
Michel Moriamé, jeune femme de 32 ans, a disparu depuis 2 mois. Elle n'aurait jamais laissé sa petite fille Émilie, âgée de 4 ans, sans nouvelles, car celle-ci est une enfant autiste, totalement dépendante de ses parents. Son ex-compagnon et père de sa fille, Henri Pacchioni, est le suspect numéro 1 dans sa disparition. Le couple se disputait violemment à propos du handicap de leur fille. L'ancien compagnon est le seul à ne pas s'inquiéter de la disparition de Michel Moriamé. Le handicap de la petite Émilie n'est pas le seul motif de discorde qui peut expliquer la disparition de Michel Moriamé. Les policiers découvrent qu'il existait un mobile beaucoup plus classique, la jalousie. Car la jeune secrétaire avait une sexualité assez débridée.
Déjà, elle a une jeunesse assez mouvementée, puisqu'elle a eu déjà des rapports très jeunes, très tôt. Il y a quand même 20 ans, 25, 30 ans en arrière, ça se passait pas comme maintenant, hein. Il y a cette restriction. Il y avait tout ce truc, donc c'était quand même une fille assez volage et assez libertine.
De fait, au moment de sa disparition, Michel Moriamé avait un nouveau compagnon, ce qu'Henri Pacchioni ne supportait pas.
Il se rend compte qu'elle a fini par se construire, qu'elle n'est plus dépendante de lui et qu'il n'est plus son héros.
Elle a rencontré un gars, Paul, avec qui ça semble accrocher sérieusement.
En effet, à l'époque de sa disparition, Michel a retrouvé l'amour dans les bras d'un homme un peu plus âgé qu'elle, Paul. À ses côtés, elle compte donner un nouveau sens à sa vie de femme et de mère.
Elle était stabilisée, il y a tout qui s'arrangeait, il y a tout qui s'éclairait. Là, c'était parfait.
Elle est en construction et Pacchioni ne supporte pas cela.
Paul lui propose une vie à l'abri, rangée, en sécurité. Et de la sécurité, c'est ce dont Michel a le plus besoin. Elle se livre corps et âme à cet homme et caresse l'espoir d'une vie meilleure. Les deux amants sont faits l'un pour l'autre. Michel Moriamé est comblé. Pour ses proches, à 32 ans, Michel avait enfin mis sa vie sur de bons rails. Elle allait même devenir propriétaire d'un magasin de fleurs.
Et elle avait un projet extrêmement élaboré de prendre sa vie en main, puisqu'elle était sur le point de signer l'achat d'un fonds de commerce.
Elle avait signé 3 mois auparavant un compromis de vente pour un magasin de fleurs.
J'ai peur que ça dérape et ça va déraper.
Les enquêteurs apprennent également que Michel avait une peur bleue d'Henri Pacchioni. À plusieurs reprises, elle a avisé ses proches de ses inquiétudes.
Pacchioni est devenu fou. Il est violent, il est vindicatif, elle a peur de lui, elle le signale, elle fait un testament.
À qui je peux la confier? Si je meurs, je serai incapable de faire quoi que ce soit, je ne serai plus là pour protéger ma fille.
Je comprends, chérie.
Elle aurait aussi confié à son nouveau compagnon, Paul, sa peur qu'un jour Pacchioni ne la tue et que sa fille soit placée, après sa mort, dans une famille d'accueil. Dans les bras de son nouveau compagnon, Michel Moriamé semble désespéré. Ces révélations confortent les enquêteurs dans leur intuition. Michel Moriamé n'avait aucune raison de partir. Il lui est donc bien arrivé quelque chose. Les policiers pensent qu'ils ont affaire à un scénario criminel classique. Follement épris de Michel, Henri Pacchioni n'aurait pas supporté l'idée de la voir refaire sa vie avec un autre homme. Ils sont désormais convaincus de la culpabilité de l'ex-compagnon qui, dévoré par la jalousie, aurait fait disparaître Michel Moriamé. Henri Pacchioni est le suspect numéro 1 dans la disparition de la mère de sa fille handicapée. Michel Moriamé a disparu. Son corps n'a pas été retrouvé. Les enquêteurs sont persuadés qu'il s'agit d'un meurtre. Les deux parents d'Émilie se déchiraient à propos du handicap de leur fille. Michel Moriamé avait des projets et un nouvel homme dans sa vie. Ce que son ancien compagnon, violent, n'aurait pas supporté. Interrogé sur la nuit du drame, Henri Pacchioni fournit un alibi aux policiers.
J'étais au poker. J'étais au poker avec des amis.
Selon ses déclarations, ce soir-là, il était chez son meilleur ami en train de jouer au poker pendant toute la soirée. Les deux hommes organisaient souvent des parties endiablées jusque tard dans la nuit. Cet alibi est confirmé par son partenaire de jeu.
Te couches ?
Vas-y, cadeau.
Et ce n'est que vers 2h du matin qu'il a ramené Émilie chez sa mère à Marignane pour la coucher. Mais avant de partir, en bon père attentif, Henri Pacchioni tient à s'assurer que Michel Moriamé est bien là. C'est alors qu'il constate qu'elle n'est pas présente. Elle semble être partie après une soirée romantique.
Surpris, la présence de coupes de champagne. Comme si donc on avait joyeusement fêté une soirée et qu'on s'était ensuite évaporé, parti, disparu.
Henri Pacchioni explique aux enquêteurs que cela l'a rendu furieux. Car une fois de plus, Michel Moriamé n'en aurait fait qu'à sa tête et aurait oublié son enfant pour un rendez-vous galant. De son côté, Paul, le nouvel homme de Michel Moriamé, confirme avoir passé le début de soirée chez elle autour de deux coupes de champagne avant d'aller dîner au restaurant en amoureux. Paul dit avoir quitté Michel Moriamé aux alentours de minuit.
Bon, monsieur Pacchioni, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé.
Henri Pacchioni pense en avoir fini avec cette affaire. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'Émilie, le fruit de la discorde dans le couple, va avoir une importance capitale lors de son passage devant le juge d'instruction. En effet, le magistrat, persuadé de la culpabilité d'Henri Pacchioni, appuie sur la corde sensible du suspect. Si Henri Pacchioni n'avoue pas le crime, il risque de perdre à tout jamais sa fille qui sera placée dans une institution, ou pire encore pour lui, dans la famille de Michel Moriamé.
Je vous mets en prison, au secret, vous ne verrez plus votre mère, vous ne verrez plus votre enfant, vous ne verrez plus personne.
Il est toujours obsédé par l'idée de... Est-ce qu'on va lui enlever sa fille ? Voilà. Sa petite, est-ce qu'on va la donner aux parents de la disparue ? Il craint ça par-dessus tout, d'être séparé de sa fille.
Vous avez pensé à la petite Émilie ?
Du coup, selon Henri Pacchioni, pour ne pas qu'Émilie lui échappe définitivement, il accepte de passer aux aveux à sa manière.
Je lui dis, si j'avoue, je ne pourrai jamais vous donner au monde un cadavre, je ne l'ai pas tué. J'y étais pas. Il y a tout qui le prouve, j'y étais pas. Et là, il m'a dit, moi je m'en fous, vous signez, vous avouez, puis c'est tout.
Pour la première fois, il explique alors au juge ce qu'il se serait passé, selon lui, cette fameuse nuit du 31 mars au 1er avril. Il était bien chez son partenaire de poker, mais il est rentré plus tôt que prévu, car Émilie réclamait son lit. Il est arrivé à l'appartement de Michel Moriamé aux alentours de minuit. Henri Pacchioni a laissé la petite Émilie à sa mère, le temps d'aller garer sa voiture.
Il revient, elle était en train d'être violente une fois de plus, une fois de trop. Avec Émilie.
Aline, réagis là ! Pourquoi tu réagis pas comme ça ? Hein ? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour avoir une petite fille comme ça ? Je n'ai pas demandé ça !
Elle vient d'agresser l'enfant, il s'interpose.
Il ne va pas le supporter et il va y avoir une bagarre.
Oh, pourquoi t'es comme ça ?
Je m'arrête !
Il la pousse et elle va tomber sur un montant de lit.
Elle est tombée à l'angle, sur l'angle du lit, elle s'est fracassée le crâne.
Il la pousse et elle tombe et elle meurt.
Ainsi, pour Henri Pacchioni, les choses sont claires. Il n'a jamais voulu la mort de son ex-compagne. C'était un accident. Des aveux qui ne sont pas partagés par les enquêteurs qui pensent qu'il s'agit d'un meurtre pour une bonne raison.
Qu'on fait disparaître le corps ? Si c'est accidentel ? Quel intérêt de faire disparaître le corps ?
Précisément, en ce qui concerne la disparition du cadavre, Henri Pacchioni révèle au juge d'instruction qu'il a enveloppé le corps de Michel Moriamé dans un drap blanc afin de faciliter son transport. Toujours dans ses aveux, le baroudeur explique qu'il a chargé le corps dans le coffre de sa voiture et est parti près du canal de Martigues, qu'il connaissait bien. En plongeur expérimenté, Henri Pacchioni sait comment faire disparaître un corps afin d'éviter qu'il remonte à la surface. Selon ses déclarations, il aurait coulé la dépouille de son ex-compagne dans le canal de Martigues en espérant que le courant se charge de son sort. Michèle Moriamé, cette jeune mère de famille qui reprenait goût à la vie, aurait trouvé comme dernière demeure les eaux troubles du canal de Martigues. Henri Pacchioni révèle que c'est ensuite, en revenant à l'appartement, qu'il aurait démonté le lit et l'aurait fait disparaître. Pour le juge d'instruction, tout s'explique. Henri Pacchioni a tué son ex-compagne, Michèle Moriamé, parce qu'il était persuadé qu'elle maltraitait leur fille handicapée, Émilie. Mais ce qu'ignore la justice, c'est qu'elle va se trouver confrontée à une incroyable énigme.
Reste la question sans réponse. Où est passé le corps? Qu'est-ce qu'il a fait du corps, quoi?
C'est le mystère de ce dossier. On va se rendre compte que c'est pas possible qu'il ait jeté le corps à cet endroit.
Après les révélations d'Henri Pacchioni, les enquêteurs se rendent ici sur les lieux où se trouverait le cadavre de Michèle Moriamé au canal de Martigues. Avec nous, 19 ans plus tard, Henri Pacchioni revient sur les lieux.
Voilà les lieux où j'aurais jeté Moriamé Michel. Et voilà, je l'ai prise dans les bras et je l'ai posée dans l'eau. Alors ben, tout le monde était content, on a applaudi, bravo Monsieur Pacchioni, c'est super. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. J'ai jamais posé Moriamé Michel là. Mais moi, dans ma tête aussi, j'ai dit, bon, mais ils vont voir. Quand on est arrivé là, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout, c'est impossible. Eh bien non, ça ne fait rien.
Les enquêteurs sont stupéfaits. Si un corps avait été déposé dans ce bassin de 30 cm de fond, on aurait logiquement dû le retrouver. Pour la défense d'Henri Pacchioni, cela prouve tout simplement que son client est innocent.
Donc s'il ne l'a pas jeté là, c'est qu'il ne sait pas où il a jeté le corps et que ce n'est pas lui qui a jeté le corps. Donc il y a déjà une incertitude parce que tous les experts sont venus dire que s'il l'avait jeté à cet endroit, le corps serait remonté. On n'a jamais retrouvé le corps.
Alors, Henri Pacchioni est-il un manipulateur ou un faux coupable? Mais si ce n'est pas lui le meurtrier, qui est-ce? Souvenez-vous. La voisine de palier de Michèle Moriamé affirmait aux enquêteurs avoir aperçu un homme en noir avec un chapeau cette fameuse nuit du 31 mars au 1er avril 1989. Pour elle, cet homme ne pouvait pas être Henri Pacchioni. Pour l'avocat de la défense, Maître Keïta, l'aventurier aurait avoué pour couvrir quelqu'un.
Moi, je crois qu'il cache un secret. Voilà. J'ai toujours pensé qu'il y avait un secret. J'ai toujours été persuadé que ce n'était pas lui qui avait tué, mais qu'il couvrait quelqu'un.
Avec ou sans cadavre, pour la justice, c'est bien Henri Pacchioni, le meurtrier de Michèle Moriamé. Henri Pacchioni est incarcéré dans l'attente de son procès. Dans un premier temps, ce baroudeur a reconnu sa responsabilité dans la disparition de son ex-compagne. Mais ses aveux sont sujets à caution, car contrairement à ce qu'il avait déclaré, il n'a jamais jeté le cadavre de Michèle Moriamé à l'endroit qu'il avait indiqué. Depuis, Henri Pacchioni est revenu sur ses aveux. Persuadé qu'il est victime d'une erreur judiciaire, incompris, séparé de sa fille autiste, Henri Pacchioni, le plongeur de l'extrême, va se soustraire à la justice d'une manière radicale. Du fond de sa cellule, Henri Pacchioni est acculé. Avant de commettre un geste lourd de conséquences, il pense une dernière fois à sa petite Émilie, la prunelle de ses yeux. Afin d'attirer l'attention sur lui, ce père de famille désespéré s'apprête à commettre l'irréparable.
Puis j'ai un habit de nylon, j'ai arrosé d'alcool et j'ai gratté l'allumette. Voilà, tout simplement.
Son survêtement est en nylon, matière qu'il sait très inflammable. Dans sa cellule, Henri Pacchioni se vide une bouteille pleine d'alcool sur tout le corps.
Il fait tout pour se tuer.
Henri Pacchioni, cet homme de 49 ans à la vie extraordinaire choisit une mort extraordinaire. Le 30 octobre 1991, il s'immole par le feu. Mais il était écrit qu'Henri Pacchioni ne devait pas mourir au fond d'une prison. Grâce à l'intervention très rapide des gardiens et des ambulanciers, l'homme est sauvé des flammes in extremis. Immédiatement, Henri Pacchioni est transféré à l'hôpital des Grands Brûlés de Marseille. Son pronostic vital est très engagé. Henri Pacchioni est brûlé sur 60% de sa surface corporelle.
Et il a survécu parce que justement c'est un baroudeur qu'il avait un physique exceptionnellement fort. Exceptionnel. Et son corps va réagir à cette violente agression qu'il s'est lui-même prodiguée. Le feu, c'est terrible. On souffre terriblement, il est brûlé sur tout le corps. Il est transporté au Grand Brûlé de Sainte-Marguerite et là, il est sauvé.
Contre toute attente et à la surprise des médecins, Henri Pacchioni survit.
Alors, je me suis vite retapé. En fait, quand même en respiration artificielle et tout. Les filles qui me gardaient, ben, tous, ils m'avaient à la bonne, ils connaissaient mon histoire. Tout le monde m'avait à la bonne, de toute façon.
De fait, Henri Pacchioni, le détenu hospitalisé, arrive à sensibiliser les fonctionnaires de police qui assurent sa garde surveillée.
On comprend que des liens aient pu se créer, même avec les gardiens ou avec le fonctionnaire de police. C'est un personnage sympathique, c'est un père de famille à qui il est arrivé un malheur. Venir une petite fille handicapée, qui est maltraitée par sa mère et qui a mis fin au jour de sa femme par accident pour l'amour de sa fille.
Les fonctionnaires de police ne sont pas les seuls à être émus par son histoire. Lorsqu'il est transféré à l'Institut Héliomarin d'hier, près de Toulon pour sa rééducation, il fait la rencontre d'un homme paralysé qui va le pousser à s'évader.
Non, je vais mieux. On va me remettre au toit.
Tu peux pas retourner au toit.
Ouais, pas le choix.
Qu'est-ce qu'elle va faire, Émilie, sans toi?
Il est dans la section hautement surveillée quand même. Hautement surveillée. Et il va rencontrer un homme qui est paraplégique, qui est dans un fauteuil roulant. Et puis cet homme sent qu'il y a un malaise profond chez Henri Pacchioni, qu'il est obsédé par une seule chose. Et à un moment donné, celui qui est son compagnon de cellule, qui est paraplégique ou tétraplégique, je crois, va dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas honte? Émilie a besoin de toi. Allez, je t'ouvre la porte, ou en tout cas, je t'indique qu'il faut partir. Tu es resté trop longtemps ici. Il va partir.
Va chercher Émilie, Henri.
J'y vais.
Va la chercher.
Merci à toi. Je n'oublierai jamais ça.
Henri Pacchioni est déterminé. Cet aventurier décide de franchir le point de non-retour. À partir de maintenant, l'homme est en cavale et devra regarder derrière son épaule et ne dormir que d'un œil s'il veut rester un homme libre. À peine son évasion connue, un énorme dispositif de recherche est mis en place. Le fuyard croise alors les policiers qui ne le reconnaissent pas. Henri Pacchioni joue les cueilleurs du dimanche en ramassant des escargots.
Mais les filles qui s'attendaient à voir un mec, comme vous avez dit vous, sur un fauteuil roulant, tout la gaga, n'ont pas un type tranquille avec un sac en train de ramasser des escargots. Et ils arrivent et me disent « Monsieur, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, chef ?» Il me dit, il faut que vous partiez. Je dis, pourquoi je vais partir de là? Il y a un interdit, il y a un homme très dangereux qui est en cavale, là. Il faut vous lever de là. Et que voulez-vous qu'il me fasse? Moi, si vous mon sac d'escargot, je lui donne. Hein. Il y a pas de... Je ramasse mes escargots, moi, laissez-moi tranquille hein, avec mes escargots. Et on partait.
Le vrai faux ramasseur d'escargots touche à son but. Contrairement aux évadés classiques qui prennent le large immédiatement, Henri Pacchioni fait tout l'inverse. Il se rend à Marseille dans la gueule du loup pour récupérer sa fille placée chez sa grand-mère, dont la maison est sous haute surveillance.
Mais la police surveille le domicile de la grand-mère.
Avec un sang-froid extraordinaire, Henri Pacchioni va kidnapper sa fille chez sa mère, au nez et à la barbe des policiers présents.
Il y avait deux entrées, et je ne savais pas. Il y avait l'entrée principale en haut, mais il y avait une petite entrée en bas du jardin de ma mère.
C'est par cette petite entrée dérobée qu'Henri Pacchioni va enlever sa fille.
Mais c'est un véritable rapt, quoi. Il est capable de tout par amour pour cet enfant. Et je dis par amour pour cet enfant. Hein.
Le père et la fille sont à nouveau réunis. Ils ne se quitteront plus. C'est le début d'une cavale qui, contrairement aux apparences, ne pose pas de problème à l'aventurier qui connaît le monde comme sa poche.
C'est un baroudeur, il a parcouru le monde, il a des relais partout, et se trimballer avec une enfant en difficulté de santé mentale, à travers le monde, ne lui posera pas de problème, il disparaîtra le temps qu'il faut. Cet enfant a été brinque-ballé comme un paquet. Je pense qu'il aimait cet enfant. Il l'aimait au point de ne pas vouloir la partager.
En cavale, cet enfant handicapé qui pourrait sembler être un poids va se révéler au contraire son meilleur atout. En effet, quoi de plus naturel qu'un père et sa fille en voyage ?
On a passé de belles vacances. Elle a pris l'avion en maintes fois, le bateau n'a jamais été un souci, jamais.
Cet amour évident et partagé est leur meilleur laissez-passer. Durant la cavale, Henri Pacchioni va être repéré à plusieurs reprises. Pourtant, les forces de l'ordre vont curieusement fermer les yeux.
Il se retrouve en Sardaigne et là, évidemment, il y a un mandat d'arrêt international. Il y a un carabinier qui le reconnaît. Mais devant cet amour qu'il montre, la petite fille handicapée et tout, il lui dit « Bon, va-t'en !» Et je ferme les yeux. Et il s'en va. En Corse, c'est pareil. Les autorités locales ferment les yeux pour ne pas le séparer de sa fille.
1991, le père de famille en fuite arrive au Brésil avec sa fille. Henri Pacchioni y découvre ce qu'il pensait impossible. En Amérique du Sud, tout le monde semble penser comme lui. Le handicap mental de sa fille n'est pas une tare.
Le handicap n'est pas vu comme dans les pays où on a tout. Le handicap fait partie de la vie. On ne vous montre pas du doigt parce que vous êtes handicapé. Émilie va se fondre dans le paysage du Brésil et on ne va pas la montrer du doigt comme souvent ça arrive chez nous. Quand vous avez un handicap, on n'ose pas montrer nos handicapés. On les cache. Tellement ça fait mal, ou ils sont agressés, ils ne veulent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir. Ben non, au Brésil, elle va se sentir pleinement heureuse, aimée, adulée. Je crois qu'elle va passer les plus belles années de sa vie. Lui aussi.
Pour Henri Pacchioni, c'est la première fois qu'il voit sa fille acceptée et heureuse.
T'as de beaux yeux, Julien.
Nous sommes au Brésil en décembre 1995. Cela fait 4 ans et demi que Henri Pacchioni est en cavale, avec toujours à ses côtés, sa fille Émilie, désormais âgée de 11 ans.
Je la prenais dans mes bras, je me la bouffais, je la couchais à côté de moi, puis je la mettais dans son petit lit, je l'écoutais dormir, je la regardais, voilà, c'est tout.
Ah, belle.
Dans son entourage brésilien, personne ne connaît le passé de cet homme. Afin qu'on ne puisse l'identifier, Henri Pacchioni a pris soin de changer son identité et celle de sa fille. Il s'appelle à présent Enrique et Émilie Pérez. Enrique Pérez travaille ici dans les mines de pierres précieuses. Depuis son implication dans la mort de Michel Moriamé, l'homme a basculé dans l'illégalité.
Je reviens.
Il ne plonge plus au fond des océans, mais est devenu trafiquant d'émeraudes.
Bien, ça va.
Une activité très lucrative qui lui permet d'offrir une vie de rêve à la petite Émilie. Cette profession hors la loi pousse également Henri Pacchioni à effectuer de nombreux déplacements à travers le monde.
On est OK.
En décembre 1995, le père d'Émilie, âgé de 53 ans, doit quitter le Brésil. Bien qu'il soit sous le coup d'un mandat d'arrêt, il revient clandestinement à Marseille avec sa fille. Cet homme en cavale croit alors avoir tout prévu. Avec sa fausse identité, il pense qu'il ne risque pas d'être démasqué. Cette destination, qui devait être de courte durée, se révélera être le centre du piège qui va se refermer sur Henri Pacchioni. Le bon père de famille en fuite avec sa fille va se faire arrêter. Pas pour son trafic de pierres précieuses, mais pour un dossier criminel qui le poursuit depuis 7 ans. Le meurtre de son ex-compagne, Michel Moriamé. Nous sommes à Marseille, en janvier 1996, soit un mois plus tard. Henri Pacchioni va retrouver les policiers qui étaient sur sa trace depuis plus de 4 ans.
Et il revient en France pour récupérer de l'argent parce que j'ai cru comprendre qu'au Brésil, il traficotait dans le diamant ou gagnait sur de cet ordre-là.
Ce qu'ignore Henri Pacchioni, c'est qu'il a été donné par un indique anonyme et les policiers savent désormais où il se cache.
Il a été dénoncé quand il est revenu à Marseille, oui. Mais ça, je ne pourrais pas vous dire qui c'est parce que je ne le sais pas moi-même.
Au petit matin, un véhicule de police se rend au domicile où logent Henri Pacchioni et sa fille Émilie. Le père et la fille sont au petit déjeuner lorsque de vieilles connaissances frappent à la porte. Des policiers qui le traquent depuis 4 ans et demi.
Je les connaissais, hein, et j'aurais dit non, je suis pas armé, hein, vous pouvez rentrer, vous pouvez fouiller.
Henri Pacchioni ?
Quand il ouvre aux policiers, Henri Pacchioni réalise alors qu'il a été trahi et que sa cavale touche à sa fin. Désormais, le père de famille est rattrapé par son passé. Il va devoir répondre du meurtre de son ex-compagne, Michel Moriamé. Avant les assises, Émilie sera confiée à sa grand-mère paternelle. Nous sommes à Aix-en-Provence, le 2 octobre 1996. L'homme en cavale depuis plus de 4 ans doit maintenant affronter ses juges. Il doit répondre du meurtre de Michel Moriamé et de son évasion. Dans le box, Pacchioni le fuyard n'est plus le même. Il a perdu de sa superbe.
Il a changé. Je pense qu'il est, marqué par sans doute cette cavale. Une cavale, c'est jamais facile. Avec un enfant handicapé, ça ne doit pas être non plus très facile.
Il nie toujours le truc, mais bon, disons que... Les soupçons sont quand même accablants pour lui. Quoi.
Alors que les charges semblent accabler Henri Pacchioni, un témoin surpris s'invite à l'audience. Émilie.
Ils l'ont fait venir. Là, c'est pareil. Je me suis mis en colère. Hein, le président, présentez-vous votre nom, votre âge et votre identité. Elle ne parle pas.
Ah ben la fille c'est toujours une poupée qui dit pas ni oui ni non mais qui parle par monosyllabes et on sent qu'il y a entre eux un espèce de courant presque qu'on pourrait matérialiser à toucher d'amour réciproque.
C'est donc sans prononcer un mot qu'Émilie tente de secourir son père, un témoin muet qui va bouleverser toute l'audience.
Cet amour infini qu'il porte à la petite Émilie. Eh bien, elle a vraiment attendri tout le monde et a provoqué beaucoup d'indulgence à son égard.
Alors qu'Henri Pacchioni risque en théorie 20 ans de réclusion criminelle, l'accusé n'est condamné qu'à 12 ans de prison pour le meurtre de Michel Moriamé, plus 2 ans pour son évasion. Pour la famille de Michel Moriamé, le verdict semble un peu amer.
Je m'attendais à une peine plus forte. Sur, encore une fois, le personnage menteur et aussi irrespectueux de la mémoire autant de cette femme que de ses parents dans leur deuil. Ça, je pensais que ça vaudrait plus cher, plus encore que l'homicide volontaire commis.
Si la famille de la victime vit aussi mal le verdict, c'est aussi parce que la justice va se montrer très clémente avec Henri Pacchioni. L'amour entre le père et sa fille va peser lourd dans l'exécution de sa peine.
Et le juge de l'application des peines lui accorde une permission de 12 jours après 18 mois seulement de détention. Ça s'est jamais vu, c'est unique dans les annales. Pour aller voir sa fille, pour pouvoir s'occuper d'Émilie.
Ainsi, après 7 ans de détention, Henri Pacchioni, condamné à 14 ans, retrouve la liberté en conditionnel. À sa sortie, Émilie l'attend. Aujourd'hui, Henri Pacchioni, 70 ans, continue de vivre avec Émilie, 28 ans, dans un quartier modeste du nord de Marseille.
Le soir, qu'elle va se coucher dans son lit, elle m'appelle « Papa, viens !» Bisous, bonne nuit. Mais je suis heureux, moi. Je vais faire le bisou, bonne nuit. Parce qu'Émilie, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle et que personne ne veut s'en occuper.
En effet, Émilie subit le sort des enfants autistes. Elle est trop âgée pour bénéficier d'une prise en charge par l'État. Elle dépend à nouveau entièrement de son père. Père qui sait qu'il n'est pas éternel. Henri Pacchioni aimerait trouver une solution pour la prise en charge de sa fille.
C'est un peu un souci parce qu'elle a envie d'être avec des jeunes de son âge alors que ben, toutes les portes sont fermées. Voilà, c'est la France. Alors ben, je fais un appel, si un jour il y a un centre qui veut bien prendre ma fille, hein, ça sera les bienvenus.
Faute de trouver, Henri Pacchioni pense de plus en plus à retourner là où ils ont vécu les plus belles années de leur vie, au Brésil.
Mon rêve, c'est bien sûr repartir au Brésil, hein, ça c'est certain. Parce que ce que j'ai ici, au Brésil, on vit comme des petits princes. Hein. Et en plus, surtout, Émilie serait pris en compte totalement. Mais ça, c'est une autre histoire. Là-bas, on dit que quand ils sont comme ça, c'est un don de Dieu. Alors qu'ici, vous en voyez beaucoup, des handicapés dans la rue. On n'en voit pas beaucoup. Hein. On les cache là-bas, on les cache pas. On les montre. Hein. On est fiers.
La famille de Michel Moriamé est repartie déçue du procès. Elle ne saura jamais la vérité.
Monsieur Moriamé est décédé. Il est parti avec cette angoisse, cette préoccupation de savoir comment son enfant est mort, de ne pas avoir eu de sépulture devant laquelle il pouvait se recueillir. Quant à Madame Moriamé, elle vieillit gentiment, elle prend du recul par rapport à tout cela, elle ne croit plus à rien et elle attend peut-être de mourir en emportant cette douleur d'une mort sans preuve.
23 ans après, le corps de Michel Moriamé n'a toujours pas été retrouvé.